Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Encore une fois, merci d'être avec nous. Très bonne matinée avec RMC. C'est votre week-end des experts. Le jardin, la maison. Tout à l'heure, ça sera la forme, la santé, la vie numérique aussi avec Raphaël Grabi entre 9 et 10. Demain, votre rendez-vous auto avec 3 heures d'auto et Jean-Luc Moreau. On poursuit nos activités et vos rendez-vous habituels. Et avant de retrouver tout à l'heure le docteur Christian Ricchia pour la forme et la santé, c'est Christian PC qui nous a rejoint.
Mais oui, je suis là. Bonjour mon cher François.
Christian.
Vous avez l'air de mieux vous porter.
Oh bah écoutez, ça va, ça va et oui.
Radio, ça entretient.
On prend soin de nous, on désinfecte tout.
Oui, on a une petite lingette là.
Voilà, on est aussi confinés. Alors nous, on est venus en studio, hein. Vous savez que... il est possible de faire de la radio aujourd'hui grâce à des moyens technologiques de chez soi, mais on a décidé malgré tout de venir en studio pour écouter, faire comme d'habitude. Voilà. Hein, et on est très heureux d'être là en prenant évidemment toutes les précautions qui s'imposent. Christian, oui. On est là jusqu'à 8h ensemble. Le bricolage, la maison, la déco, avec vos questions dès maintenant. On va retrouver Patricia dans une minute. Comment essayer, grâce à des astuces, de réparer les appareils électroménagers qui tombent en panne?
Oui, alors bon, il y a encore de la maintenance dans beaucoup de professions. Hein. Cette semaine, un communiqué du CINASAF, par exemple, concernant les systèmes de chauffage, etc. Donc, il y a des possibilités d'intervention à domicile, mais il faut essayer quand même de les limiter. Quoi. Donc,
oui,
alors,
bien sûr.
Chez nous, on a un matériel... on va appeler ça le gros électroménager.
Le four, le frigo, la machine.
Pour certains, qui est beaucoup plus sollicité.
Bien sûr.
Parce qu'on est complètement à la maison. Donc,
tout à fait. Et puis, si on n'a pas de chance, ça tombe en panne maintenant.
Voilà, je me suis posé la question et on va voir tout à l'heure avec Kevin Bracton qui représente Spareka. On verra qu'il y a des possibilités de dépanner soi-même son électroménager avec à la fois. La livraison de pièces détachées, avec aussi des tutoriels donc vidéo. Je crois qu'il y en a près d'un millier chez Spareka, et aussi même une assistance téléphonique si c'est nécessaire.
Alors, bien
je trouvais que c'était intéressant. On va parler de cela dans quelques.
Voilà. Minutes. Alors il y a Spareka, mais il y a d'autres services aussi. Hein, on ne focus pas sur Spareka. Vous imaginez bien que sur Internet aujourd'hui, il y a même des particuliers hein, qui font des tutos. On en parlera tout à l'heure. Votre coup de cœur aussi, avec ce dispositif de coup de pouce pour la rénovation énergétique.
Ça, hein. C'est très bien, et puis ça donne un petit rayon de soleil, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas seulement des problèmes économiques importants actuels, et on peut saluer les efforts qui sont faits, mais le fait que le gouvernement annonce la reconduction du dispositif coup de pouce pour les travaux de rénovation énergétique et le remplacement des chaudières jusqu'en décembre 2021,
c'est un
bon signe.
Vos questions, bricolage, maison, dès maintenant, le 32-16. Comme d'habitude, Christian PC là pour y répondre. 32-16 ou bien via l'appli RMC Direct Studio. Si vous avez une question, vous pouvez nous la poser à l'écrit avec votre numéro de téléphone. Merci d'être avec nous, bienvenue et on attaque avec Patricia. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour.
Bonjour Patricia. Vous êtes une habituée là, hein, parce qu'il me semble que vous étiez déjà passée la semaine dernière, vous. Hein.
Ah non.
Non, c'est pas vous.
Ouais, c'est pas vous. À force d'être confiné, Christian PC perd la raison.
Voilà,
mais
voilà.
Bon, c'est pas grave.
Non, c'est pas moi.
Grave.
C'est pas vous.
Vous êtes
une autre Patricia.
C'était bien votre entrée en matière là,
c'est
Christian.
Vrai.
C'était magnifique. Vous êtes à Montélimar, Patricia.
Voilà,
c'est ça.
Oui.
Et on vous écoute. Allez-y.
Alors en fait, on a racheté donc à Ma Provençale, donc du côté de Montélimar, il y a 2 ans.
Oui.
Et nous avons créé donc 2 chambres d'hôtes et 2 gîtes. Les travaux de rénovation ont duré quasiment 1 an.
Oui.
Et dans les 2 chambres d'hôtes et notamment les 2 chambres de nos enfants, nous avons gardé donc des parquets. Ils ont été les parquets d'origine. Ils ont été donc poncés. On n'a pas pu garder leur couleur d'origine parce qu'ils étaient vraiment abîmés. Et ils ont été repeints en blanc. Et le problème, c'est qu'au bout d'un an, ils se sont encrassés. Ils ont des traces de chaussures, de valises, enfin voilà.
Oui.
Quoi. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'était quelle était la solution pour les rénover. Est-ce qu'il faut les vernir? Est-ce qu'il faut les repeindre? Et surtout pour avoir un entretien beaucoup plus facile, quoi.
Bah, il va surtout falloir les reponcer, c'est ça le problème.
Ah, d'accord.
Hein, parce que rien ne tiendra. Vous savez, les peintures au sol... même lorsqu'il s'agit de peintures spécialisées. Donc, moi, j'ai eu ça dans une maison en bord de mer il y a quelques dizaines d'années. Et en plus, il y avait le sable qui rentrait un peu. Et l'escalier était superbe, il était peint en blanc. Et bien, au bout de 2 ans, on avait un chemin de pas parce que c'est... j'allais dire, c'est pas vraiment fait pour ça, quoi. C'est sauf à utiliser des peintures parking, des choses comme ça. C'est-à-dire des peintures extrêmement spécialisées dans le sol, ça tient jamais vraiment. Alors, d'après ce que vous me dites, bah, c'est ça. Il y a des traces d'usure, il y a des rayures, etc. Et vous n'allez pas avoir d'autres solutions que de le poncer. Donc, il faudra que vous louiez une ponceuse à parquet, parce que ne vous ennuyez pas avec une ponceuse à bande et une petite ponceuse électroportative. Vous allez en user 3 parce qu'elles vont finir par rendre l'âme. Vous pouvez louer dans les magasins spécialisés, bien qu'en ce moment, ça sera peut-être un peu difficile, mais il faudra peut-être attendre un peu. Il n'y a peut-être pas une urgence folle dans votre affaire. Parce que je pense que les chambres d'hôtes aujourd'hui, malheureusement, elles doivent être un peu vides. Donc, il va falloir que vous ponciez. Ce sont des ponceuses très lourdes qui donnent un excellent résultat. Vous finirez en périphérie avec une ponceuse Delta pour aller dans les coins, parce que ça ne va pas jusqu'au ras des plaintes. Et puis ensuite, l'idéal, c'est de mettre un produit qu'on appelle un fondure qui va permettre de nourrir les pores du bois pour empêcher que la peinture ou le vernis, si vous vernissiez directement, soit absorbé par effet de capillarité. Puis après, c'est 2 à 3 couches de produits, soit d'un vernis. Donc, vous faites une vitrification à ce moment-là, si le parquet le mérite. Et puis sinon, soit une peinture, mais en sachant que vous allez refaire ça. Allez, je veux dire, si vous avez une utilisation intensive, vous allez refaire ça tous les 3 ans, quoi.
Ah oui, d'accord.
Voilà, il n'y a pas de
miracle. On ne peut pas revernir directement par-dessus. Quoi.
Non, vous pouvez l'essayer, mais à ce moment-là, il faut de toute façon égrainer. C'est-à-dire passer un léger coup de ponçage pour... Alors là, vous pouvez le faire avec une ponceuse, pour rendre, si vous voulez, la surface accrochante.
D'accord.
Voilà, mais bon, d'accord. Vous pouvez le tenter, mais sauf que vous allez dépenser beaucoup d'argent en peinture. Parce que les peintures, si vous utilisez une vraie peinture de sol, ça coûte cher.
Oui,
donc, il ne faut pas que vous mettiez de l'argent par les fenêtres pour que dans les 6 mois ou 1 an et demi, tout soit dans le même état que vous avez aujourd'hui, quoi.
Parce que là, j'ai passé une bonne journée, voire 2 jours, à tout nettoyer avec une éponge magique pour.
C'est des traces donc que vous avez là. Ça sent des traces de chaussures. Vous payez des chaussons, des beaux chaussons, vous savez, comme dans les palaces. Vous payez des beaux chaussons à vos locataires. Vous leur dites soyez gentils, le parquet est fragile. Je pense que c'est aussi une solution.
Donc, alors c'est vrai que c'est très très joli, c'est magnifique, mais voilà quoi, il y a des traces de partout et ça sent crasse. Bon, d'accord.
Patricia, on vous remercie, merci de votre fidélité, merci de nous avoir appelés. Et on espère que vous allez bien et que vous restez bien confinés chez vous. On est à Montélimar, vous êtes bien installés, ça va, tout va bien?
Oui, ça va. On va dire qu'on est privilégié quand même.
Mais voilà, c'est ça.
Il y a pire que nous.
Voilà. J'osais pas le dire, mais c'est vrai. Mais vous avez raison, profitez-en. Oui. Patricia, on vous embrasse. À bientôt.
Merci,
bon week-end.
Merci. Vous aussi, au revoir.
On va retrouver d'autres questions. Si tout comme Patricia, vous voulez joindre Christian PC, ça se passe au 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et tout de suite, on va retrouver le conseil béton de Kirikri.
Voilà.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Vous avez remarqué qu'il n'y a que vous que j'appelle Cricri. Hein. Christian Riquet, je ne l'appelle pas Cricri.
Non, vous ne l'appelez pas Tiantian non plus.
Non, mais parce que Cricri, c'est pas. C'est Christian Pesset. Voilà, c'est comme ça. Christian, si on dépoussiérait un petit peu notre maison.
Oui, parce que vous savez qu'en cette période où on fait. Plus le ménage, puisqu'on est plus à la maison, la lutte contre la poussière prend toute son importance. Et puis la corvée du balai et de l'aspirateur devient une réalité fréquente. Et c'est le moment d'envisager, alors je vous le conseille, de passer à l'installation d'un système d'aspiration centralisé. Les Canadiens en sont fous, ils en ont tous. les Américains, dans toutes les maisons neuves, via un système d'aspiration centralisé.
C'est bizarre parce qu'en France, c'est pas dans les mœurs.
C'est pas dans les mœurs. Alors ça, il y a quand même une grosse tendance. Hein, ça, parce que ça se démocratise. Ça vaut pas si cher que ça. Hein. C'est assez facile.
Ça coûte plus cher qu'un aspirateur, quand même.
Ben écoutez, oui, bien sûr. On va dire qu'on est autour de 1 000 euros, quoi, pour simplifier. Mais on en trouve aujourd'hui sur Internet à 350-400 euros. Alors je dis pas que c'est les matériels les plus efficaces, mais autour de 1 000 euros. Et si vous le faites installer, allez, autour de 2 000 euros, vous avez une installation très 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 performante. Alors comment ça marche? Parce que faut un petit peu aussi le rappeler. Ben on a une centrale d'aspiration qui est dans le sous-sol ou dans un local technique, plutôt hors de la maison. Mais on peut aussi, si on a une buanderie, quelque chose comme ça, ou par exemple d'une terrasse, d'un balcon, eh bien on peut mettre l'appareil à cet endroit-là. On a donc un moteur qui commande un système d'extraction, d'aspiration. Voilà. Il y a ou pas de filtre, parce qu'il y a plusieurs dispositifs, notamment un système cyclonique qui évite d'avoir des sacs, et puis vous avez donc une cuve dans laquelle la poussière vient, une cuve étanche dans laquelle la poussière vient se collecter. Et puis un réseau de canalisation. Alors attention, ce les canalisations PVC de 50 mm de diamètre, mais ce ne sont pas les canalisations qu'on utilise pour la plomberie, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Ce sont des canalisations extrêmement lisses à l'intérieur, sans aspérité au niveau des raccords, qui fait que la poussière passe. Sinon, au bout d'un moment, vous allez avoir un bouchon, parce que ça va s'accumuler au niveau d'un raccord. Alors ensuite, vous avez donc ce système de canalisation qui arrive à des prises, on va dire des bouches, sur lequel vous allez raccorder un tube flexible de 8 à 9 mètres, ce qui fait que pratiquement dans une grande maison, vous n'avez besoin que de 3 à 4 bouches. Vous avez même des bouches ramasse-poussière pour certains endroits où vous pouvez balayer et hop, ça va vers la bouche qui est à ce moment-là un petit peu en longueur. Et puis tout cela, eh bien après, vous avez tout le système classique d'un aspirateur. Vous avez une poignée, vous avez un tube métallique, vous avez tous les accessoires de l'aspirateur. Et puis vous avez il y a deux systèmes. Il y en a où quand on branche le tube, ça se met en marche automatiquement. Et il y en a d'autres où vous avez une gâchette qui vous permet donc de déclencher le dispositif. Donc on voit, c'est relativement simple, puisqu'il suffit, c'est même très simple. Et surtout, alors il y a plein d'avantages. Plein d'avantages, c'est quoi? C'est d'abord le silence, puisque vous n'avez pas le bruit de l'aspirateur.
Le moteur, s'il est dans la cave, on va moins l'entendre.
On n'entend même pas du tout, pratiquement. Hein. Donc, ça va. Le chat ne va plus avoir peur. Bébé ne va plus hurler. Donc, c'est quand même déjà un gros avantage. Ça facilite l'utilisation dans beaucoup de pièges. Je ne sais pas si vous avez déjà passé l'aspirateur dans l'escalier, mais c'est loin d'être facile. Là, vous avez votre tube, vous passez. Il n'y a pas de problème.
Et encore faut-il penser à mettre des bouches partout. C'est ça le truc.
Pas partout, puisque vous avez un tube de 9 mètres.
Oui,
donc si vous voulez, regardez, on va considérer que si vous voulez, chaque bouche permet de travailler 60 mètres carrés en gros. Donc vous voyez bien que si vous avez 180 mètres carrés, eh bien faites le calcul, vous avez besoin que de trois bouches. Alors le gros intérêt, c'est la qualité de l'air intérieur, parce que du coup un aspirateur, il va avoir des filtres, je ne veux pas dire qu'il en rejette autant qu'il aspire, mais quand même très largement. Là du coup, nickel, il n'y a plus du tout de poussière qui est soulevée, plus d'acarien dans l'air. C'est directement collecté donc dans cette cuve qu'on va vider 2-3 fois par an, pas plus, parce que ça se compacte au fur et à mesure.
C'est facile à vider.
Ben oui, bien sûr. Ben, imaginez, c'est une grosse cuve, c'est un cylindre en gros. Hein.
D'accord.
Vous avez des clips qui permettent des systèmes de fermeture de verrou.
Et on met tout ça à la poubelle.
À la poubelle directement. Hein. Il y en a même qui évacuent directement dans l'air extérieur.
Et en termes de puissance d'aspiration, c'est plus efficace qu'un aspirateur normal.
Bien sûr, c'est extrêmement puissant. Et puis vous n'êtes pas sans arrêt à vider le sac, ça se bouche. Je sais pas, moi, j'arrive jamais à comprendre pourquoi les fabricants d'aspirateurs font des systèmes aussi difficiles, souvent d'ouverture, de fermeture. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace. Le ménage est mieux fait. Je pense que on devrait tous en avoir. J'en ai pas. Mais en m'intéressant au sujet là ce matin, je me suis dit vraiment parce que vous passez donc des tubes soit dans les corps creux, c'est-à-dire soit derrière les doublages, soit vous faites dans un angle de pièce, vous faites un petit coffrage, vous repeignez, vous remettez de la tapisserie. On les voit même pas.
Alors évidemment, ça ne marche pas en appartement.
Ben, ça marche pas en appartement, sauf si vous avez par exemple un balcon avec au bout une petite buanderie, ce qui est souvent le cas dans un certain nombre d'appartements. Vous pouvez le mettre là et puis vous pouvez faire passer votre tube.
C'est pas possible. C'est moins pertinent, on va dire.
Ça veut dire que c'est moins pertinent.
On est d'accord.
Mais ça peut marcher aussi en appartement.
Et l'idéal, c'est d'envisager ce type d'installation quand on construit.
Ben, évidemment. Alors c'est pourquoi ? Parce que justement, les Américains, eh bien, dans leur projet de maison, dans leur plan de maison, c'est intégré. De la même façon que quand ils ont une maison à étage, ils intègrent la perspective d'un ascenseur.
Eh oui.
Mais nous, c'est pas encore le cas.
Ouais, mais ils ont plus d'espace aussi là-bas.
Oui, mais enfin, c'est. Alors, on dirait, ils ont souvent aussi des maisons qui sont de plein pied.
Hein. Et voilà, c'est ça. Christian, on revient dans un instant pour notre rendez-vous maison. Comment résoudre les pannes d'appareils électroménagers pendant le confinement ? Tiens, vous voulez justement témoigner parce que vous avez eu une panne de votre four, de votre frigo, de votre machine à laver et vous avez réussi grâce à Internet à la réparer. On a eu, par exemple, le témoignage d'Alex, mais il nous a pas laissé son numéro de téléphone. Alors Alex, si vous nous écoutez, rappelez-nous ou alors laissez-nous un autre message sur Direct Studio avec votre numéro de téléphone portable et on vous rappelle bien évidemment.
Et mieux encore, vous êtes en panne ce matin.
Ah ben voilà,
est-ce qu'on peut vous aider ? On va avoir un spécialiste.
3216 ou bien l'appli RMC Direct Studio. Et puis, j'ai envie de vous offrir un cadeau cette semaine. Dans ce rendez-vous maison, je vous offre, écoutez bien, un lampadaire avec Mano Mano. Vous allez pouvoir emporter ce luminaire moderne en bois sur pied. Parfait pour décorer votre intérieur.
Il vaut mieux avoir un pied pour un luminaire.
Oui, c'est mieux. Mais là, il est en bois, donc ça, en plus, c'est très classe. Donc, c'est parfait pour décorer votre intérieur ou habiller un extérieur pour remporter ce lampadaire qui s'appelle Joshua. Vous nous envoyez tout simplement le mot maison par SMS au 732-16. Vous tapez maison sur votre mobile et vous envoyez ça au 732-16 et automatiquement vous participerez au tirage au sort. Attention, ce SMS est surtaxé. On revient juste après la météo sur RMC. À tout de suite.
Votre maison sur RMC avec Mano Mano, la référence européenne du bricolage et du jardinage en ligne. RMC.
Avec cette machine à laver, là, je vais crever les...
Elle est en panne ?
Jusqu'à 8h.
C'est la panne. La panne de quoi ?
Votre maison.
Vous inquiétez pas, cette panne-là, c'est de la rigolade.
François Sorel.
Christian PC.
Il est 7h30, c'est RMC, le week-end des experts, le retour, la maison. Et Christian, nous allons maintenant essayer de réparer ce fichu four qui ne marche plus alors que nous sommes confinés.
Voilà, on va avoir un spécialiste
dur, hein,
de la question parce que le fait d'être confiné avec toute sa famille à la maison, eh bien, ça sollicite beaucoup plus un certain nombre d'équipements. Vous parliez du four, on sert beaucoup plus du four en ce moment qu'on ne s'en sert ordinairement puisque pour beaucoup de gens, il n'y a qu'un repas à la maison, là, il y en a deux. Donc systématiquement, ça double. Et puis, c'est toujours dans ces cas-là qu'on a des pannes. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je parlais de mon imprimante Hockey qui était tombée en panne. Eh bien, j'ai eu la démonstration qu'on pouvait avoir un télé-dépannage parce que les gens de chez Hockey m'ont appelé.
Ah oui.
Et puis, ça a été. Alors, ça a pris un peu de temps.
Un peu de temps quand même.
Parce que là, entre les différentes fonctions, c'est dingue ce qu'il peut y avoir comme truc dans une imprimante. Ça a pris 3/4 d'heure, mais je salue le dépanneur téléphonique de chez Hockey qui m'a bien dépanné.
Et alors, aujourd'hui, avec la visio, on peut faire des choses incroyables
alors,
avec son téléphone.
On va en parler. Avec Kevin Brighton qui est avec nous au téléphone de chez Sparica. Alors il va nous expliquer comment ça marche. Bonjour Kevin.
Bonjour Christian, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, ça
bonjour,
va, on est en pleine forme. Comment ça marche votre système ? Parce que à l'origine, vous êtes un vendeur de pièces détachées d'électroménager, c'est ça ?
Oui, voilà. En fait, nous sommes un site e-commerce où nous proposons en ligne les pièces détachées pour n'importe quelle référence d'appareil, pour tous les appareils de la maison.
Oui.
Et nous proposons la livraison à domicile ou en point relais. pour les personnes qui souhaitent changer seulement la pièce détachée et éviter de jeter les appareils.
Et même en ce moment, ça marche, vos livraisons, c'est pas, y a pas de problème parce que les points relais, il n'y en a plus. Hein. Enfin, il y en a de moins en moins en tout cas.
En tout cas, oui, c'est vrai, il y en a de moins en moins. Mais nous assurons toujours un service à domicile où nous livrons. Nous avons seulement un jour de plus dans les délais de livraison.
D'accord. Alors, le dispositif derrière, c'est quoi ? C'est des tutos vidéo ?
Voilà, en fait, nous proposons une pédagogie qui est gratuite et disponible par le biais de nos vidéos sur le site. Et nous montrons comment diagnostiquer des pannes, faire des entretiens d'appareils et remplacer des pièces détachées. On fait des démonstrations en vidéo et on explique toutes les règles de sécurité, bien sûr, avant d'intervenir. Et nous montrons comment changer les pièces.
Parce que, effectivement, le principal problème pour le particulier, c'est le diagnostic. Seigneur, bon, une machine marche plus, on la regarde, là, hein, on est comme une poule devant un réveil. Hein, bah oui, on se dit que ça a rien de... Donc, vous arrivez à voir, c'est quoi? C'est les process de vérification successive? Comment ça fonctionne?
Voilà, en fait, nous, on procède étape par étape, où selon un symptôme de panne bien défini, nous procédons à un démontage de l'appareil et à un diagnostic selon les organes qui sont concernés par la panne. Donc, par exemple, un foie qui ne chauffe pas, nous allons montrer comment le démonter et comment aller vérifier les organes qui peuvent être à l'origine de cette panne-là.
D'accord, ben on va prendre un certain nombre de cas et puis peut-être que nous aurons un auditeur ou une auditrice qui nous appellera pour dire le problème qu'il ou elle rencontre. Vous avez des tutos, mais est-ce qu'il y a aussi une assistance téléphonique? Parce que c'est bien le tuto, mais quand on lui parle, il répond pas. Hein.
Oui, alors nous sommes précurseurs. De la visio en ligne. Ouais. Donc sur notre site Spareka, nous pouvons proposer un créneau. Nous proposons une tranche horaire avec un expert technique qui va faire un accompagnement personnalisé. Donc cet expert-là va pouvoir sera en fait finalement les yeux et pourra regarder avec la personne en visio, donc parcourir l'ensemble de l'appareil et ensuite définir quelles sont les pannes qui peuvent être à l'origine. Ouais.
Alors attendez, je ne comprends pas bien là. Ça veut dire quoi? Parce que Visio, vous faites des vidéos, vous les diffusez, mais Visio, ça veut dire que vous demandez au particulier de prendre son smartphone et de faire une vidéo lui-même, c'est ça?
Voilà, en fait, on va demander à la personne de se connecter sur une application pour pouvoir établir une connexion en Visio. Et ensuite,
c'est-à-dire que vous allez voir en temps réel,
à l'aide de son téléphone ou de sa tablette.
Voilà, vous allez voir en temps réel ce que vous montre la personne chez elle, et vous allez pouvoir comme ça faire des arbitrages techniques. C'est ça, en fait.
Voilà, exactement. Donc il y a beaucoup de choses à savoir, que ce soit visuellement ou même au niveau du bruit. Un appareil en panne, on peut définir assez rapidement, grâce à la visio, quelle est l'origine de la panne et pouvoir y remédier.
Ça, c'est pratique.
C'est génial comme truc.
On a Alexis au 3216 qui veut témoigner ce matin. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Bonjour Alexis.
Bienvenue sur RMC, vous nous avez laissé un petit message sur Direct Studio. Alors, vous avez réparé quoi à la maison ?
Une machine à laver, le linge.
Et voilà, exactement. Qui est tombé en panne. D'un coup, elle ne marchait plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, c'est que souvent, c'est des symptômes où elle se met à clignoter, en fait. Le pupitre clignotait de plus en plus, puis un jour, il ne fonctionnait plus. Et là, bon, je me suis dit, c'était un peu à l'époque, il y a 2-3 ans, on parlait beaucoup d'obsolescence programmée. Je me suis décidé à la monter et à démonter. Puis il y avait bien un condensateur, comme on peut voir sur pas mal de trucs informatiques et tout, où on voit le condensateur qui est gonflé, donc c'est souvent une cause de panne, et la réparation, c'est un fer à souder, une commande d'un condensateur de 20 centimes environ.
Oui.
Et je l'ai remplacé, et c'est reparti, j'ai pu la revendre un an après, sans souci, elle a retourné. Quoi.
Eh ben bravo.
Pas de problème ensuite.
Alexis, est-ce qu'il ne faut pas être quand même un peu bricoleur, un peu, mettre les mains dans la tête?
Je suis technicien de maintenance, mais c'est vrai que je n'ai pas de connaissances vraiment particulières
en électroménager.
Enfin, vous savez quand même faire une soudure, quoi.
En regardant un peu les tutos informatiques et tout, souvent on voit que c'est des condensateurs qui crament les premiers, et là, surtout sur la carte mère, sur la carte électronique, il y avait quand même condensateur de 10 volts sur une carte de 12 volts. Donc c'est vrai que sur la durée, ça allait tomber en panne, quoi.
Alors, Kevin Brighton, donc, c'est une bonne réparation, ça va tenir?
Ah, ça, c'est une réparation qui est très viable et surtout, c'est une réparation qui est très économique. Dans le sens où on va seulement réparer aux composants, donc ça demande une certaine compétence en soudure, mais dès que la panne est localisée, effectivement c'est viable dans le temps et ça permet de faire repartir l'appareil pour quelques années, donc, oui. Bien sûr en l'entretenant et en respectant les mesures d'entretien.
Alors quand on parle soudure, hein, en fait c'est quand même très simple, hein, c'est un petit fil d'étain, un fer électrique, hein, et puis c'est un point de soudure, c'est ça, hein, c'est pas très compliqué.
Non, c'est pas très compliqué en soi, c'est ce qu'on apprenait plus ou moins en technologie au collège.
Eh oui, autrefois. Je suis pas sûr que ça soit encore le cas. Alors, Kevin, on va prendre peut-être quelques cas précis. Le cas classique, c'est le lave-linge qui vidange plus. Hein. Je pense que tout le monde a connu ça à un moment ou à un autre. Ça vient d'où et qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, généralement, un lave-linge qui ne vidange plus, c'est un lave-linge qui peine à évacuer l'eau qui peut être présente dans la cuve. La première mesure à adopter, c'est d'aller vérifier tout de suite le filtre de vidange qui se situe en bas, généralement en bas à gauche ou à droite, selon la composition de l'appareil, et d'aller voir l'état de ce filtre. On peut retrouver des pièces ou d'autres corps étrangers à travers ce filtre. Donc, c'est très simple de pouvoir le retirer. À l'aide d'un petit tournevis, on peut débloquer la trappe, dévisser le filtre de vidange et le nettoyer pour pouvoir le remettre en place par la suite.
Ah oui, c'est souvent qu'un filtre, quoi.
Voilà, donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Ensuite, il y a d'autres vérifications à faire. Notamment, quand on a retiré le filtre, c'est d'aller voir, il y a une petite hélice qui se situe au fond.
Oui.
C'est d'aller voir à l'aide de ce même tournevis si l'hélice se tourne bien de façon saccadée. C'est très important.
D'accord.
Ça montre l'état de santé, en fait, de la pompe de vidange. Si l'hélice tourne de façon libre, c'est-à-dire que la pompe est HS, et déjà, ça nous donne une piste sur l'origine de la panne.
D'accord. Et la pompe, ça se remplace assez facilement, finalement?
Alors, la pompe, oui, très facilement. Selon la composition et la marque de l'appareil, il est très facile de pouvoir le démonter de démonter l'ensemble, en tout cas la carcasse de l'appareil, et d'aller voir tout de suite au niveau du bas où se situe le filtre de vidange. La pompe de vidange se situe toujours derrière ce compartiment filtre.
D'accord. Alors moi je dirais une chose, hein, quand on ouvre une carcasse d'appareil comme ça, il y a deux précautions principales. Un, mettre des gants parce que c'est incroyablement coupant. Hein, des gants, je sais que s'il y a vraiment des arêtes là, c'est des rasoirs. Et puis prendre un petit récipient pour récupérer les vis, hein, parce que c'est saloperie de vis, ça s'en va toujours.
Et bien évidemment débrancher l'appareil.
Débrancher l'appareil.
C'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler aussi. Hein.
Des précautions.
Oui.
Kevin, moi j'avais une petite question parce que j'imagine que vous aidez des milliers en fait de particuliers tout au long de l'année. Vous devez récupérer énormément de data et j'imagine que vous remonter quand même des types de pannes qui sont toujours les mêmes. Est-ce que c'est les pannes qui remontent, c'est quasi toujours les mêmes ou est-ce qu'il y en a vraiment énormément de différentes?
Non, en fait, selon les appareils, on va identifier plusieurs typologies de pannes, mais il y a beaucoup de pannes récurrentes. C'est des pannes que nous, on identifie et qu'on arrive à transformer par la suite en outil gratuit sur notre site. C'est un diagnostic de panne. Nous, aujourd'hui, on est pratiquement les précurseurs sur tous les appareils de la maison où, en fonction du symptôme de panne, on va poser une série de questions via un petit chatbot en ligne et on va demander à la personne de faire toutes les vérifications jusqu'à trouver quel était l'élément qui était à l'origine de cette anomalie. Toute la data qu'on récupère, bien évidemment, on arrive à la concaténer en outils pédagogiques pour servir au plus grand nombre.
D'accord.
Autrement dit, les informations, vous les synthétisez parce que vous avez un vocabulaire qui est un petit peu geek, on va dire. Et vous les faites remonter aux marques aussi, j'imagine.
Oui, voilà. Donc nous, selon les marques, on arrive à remonter plusieurs problèmes qui sont récurrents et de faire en sorte que les marques puissent par la suite régler ce problème-là déjà de leur côté Et nous, on arrive à synthétiser un petit peu notre discours et puis pouvoir l'adapter au plus grand nombre pour que la personne lambda puisse intervenir sur son appareil et être averti.
Kevin, vous restez avec nous. Christian, oui. On revient dans un instant. Nous aurons Patrick avec nous au 32-16, qui a un four. Voilà, depuis 2016 et qui se met en erreur régulièrement. Et c'est dommage parce que pour cuire un poulet avec un four en erreur,
oui, c'est difficile. Hein.
C'est embêtant. Alors, Kevin,
il faut
j'espère
mettre du charbon de bois dedans.
Ouais, c'est pas forcément l'idéal. On va voir si on peut aider Patrick. Et puis, bien sûr, hein, si tout comme Patrick, vous avez un problème avec l'électroménager, c'est le moment ou jamais. Hein, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On est là jusqu'à 8h, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Voilà, quasi 8h moins le quart. Ce matin, on vous aide à réparer tous vos objets électroniques ou non du quotidien qui peuvent tomber en panne. Alors, on se focalise bien sûr sur l'électroménager, mais tiens, puisque nous avons Kevin Brighton de chez Spareka, qui est un spécialiste de la pièce détachée de l'électroménager et de la réparation. Kevin, est-ce qu'on peut de temps en temps aussi réparer sa télé qui tombe en panne, ou est-ce que c'est que l'électroménager chez vous ?
Alors, on fait aussi effectivement la télévision. La télévision, ça peut s'avérer un tout petit peu plus complexe, mais nous disposons de tutos qui marchent très bien en ligne. On a pratiquement, on a à peu près 1 million de vues sur des tutos de télévision. Comme l'électroménager, il y a des symptômes qui sont assez récurrents. On a du son mais pas d'image. On a une image qui est saccadée, ou alors la télévision qui ne s'allume plus du tout, qui clignote. Donc nous montrons à chaque fois quelle est l'origine de la panne. Et nous montrons comment soit réparer vos composants ou changer des cartes électroniques ou des câbles à l'intérieur de ces appareils.
Et il y a Pierre qui est sur Direct Studio qui nous dit « Si votre TV tombe en panne, 9 chances sur 10 que ce soit le condensateur, c'est 1 euro et une soudure et ça refonctionne. » Alors je ne sais pas si, encore une fois, on reparle de condensateur, mais c'est peut-être le fusible qui pète le plus, non, dans tous ces appareils, Kevin ?
Alors ça peut être le condensateur, c'est pas tout le temps le cas. Le condensateur, il sert effectivement à accueillir l'alimentation et puis à la redistribuer à travers tous les organes de l'appareil. Mais ça peut être difficile de savoir si c'est le condensateur ou non. Après, généralement, on peut aussi remplacer une carte électronique et l'appareil repart pour de belles années aussi.
Okay. Très bien. On a Patrick au 32-16.
C'est un problème de four.
Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour Patrick. Allez-y,
on vous écoute.
Question.
Oui, voilà, j'ai un souci avec un four Ariston. Ouais. J'ai pris possession de l'appartement en fin 2016 et depuis lors, régulièrement, j'ai des soucis avec ce four qui se met en erreur 07. Donc j'ai essayé de regarder sur Internet.
C'est James Bond derrière, je pense.
Pardon ?
C'est l'erreur James Bond, l'erreur 07. Voilà, oui. C'est pour ça.
Donc j'ai regardé sur Internet, c'est déjà difficile de trouver des notices, mais on me dit qu'en fait, ça pourrait venir du ventilateur. Donc j'ai démonté le four. J'ai regardé, j'ai essayé de dépoussiérer les ventilateurs, donc ça refonctionne très bien. Et de temps à autre, alors ça me fait en pleine.
Alors ça, c'est difficile. Hein. Les pannes intermittentes, comme ça, c'est comme en voiture. Hein. Classiquement, quand vous amenez votre voiture au garage, ça remarche, et puis voilà. Vous en sortez, ça ne marche plus. Kevin, qu'est-ce que ça peut être ? Vous avez une idée, là ?
Alors le code 07 pour un four, généralement, c'est quand ce four se met en surchauffe. Donc effectivement, c'est souvent un problème qui est lié au ventilateur. Qui permet justement de pouvoir faire baisser la température pendant ou après la cuisson.
Ouais.
Donc ça peut être effectivement ce ventilateur, mais ça peut être aussi un problème de sonde de température. Il y a une pièce qui permet de récupérer les informations qu'il y a, la température qui est présente dans le four et de la renvoyer à la carte électronique pour dire, voilà, on stoppe la chauffe ou on la continue. Donc ça peut être aussi un problème au niveau de ce petit capteur.
D'accord, donc, mais ça c'est un peu compliqué, non ? Il faut sortir le four de toute façon, il faut le poser sur une table, démonter la carcasse là aussi, et ça se trouve où votre petite pièce là ?
Alors cette pièce là, elle se trouve généralement, c'est un espèce de petit tube métallique qui est planté en fait à l'intérieur du four.
Ah oui, je vois.
On peut très facilement la déloger, la sortir de l'arrière après avoir sorti la carcasse du four. Et de pouvoir la sortir par l'extérieur. Et généralement, elle est toujours branchée aux résistances, puisque c'est elle qui va autoriser ou non la chauffe et également le ventilateur. Donc ça travaille vraiment, la sonde, les résistances et le ventilateur travaillent vraiment ensemble pour garantir une bonne cuisson et une bonne température.
D'accord. Bon, bah Patrick, ça vous va? C'est une bonne
piste. Oui, parfait.
Une bonne piste, hein.
La sonde.
Voilà.
Si on a Ludo sur Direct Studio qui nous dit attention lors du remontage d'un appareil, il faut prêter attention, une attention toute particulière au fil de prise de terre, car il y a beaucoup d'accidents d'électrocution. C'est un conseil que vous pouvez donner aussi, ça, Kevin?
Oui. Alors justement, le fil de terre, c'est ce qui permet de ne pas avoir d'électrocution quand on touche à la carcasse de l'appareil. Quand on fait les rebranchements, il faut faire très attention à ça. Nous, ce qu'on préconise, c'est quand on fait des débranchements de câbles pendant le démontage, c'est de prendre une petite photo avec le smartphone.
Oui, ça, c'est une bonne idée.
Pour éviter toutes les erreurs au remontage.
Ouais. Alors, je vais vous dire, sur le problème des couleurs de fil, moi, je peste, hein, parce que il y a beaucoup de matériel qui nous viennent, on va dire, de très loin, si en clair de Chine ou autre, et où le code des couleurs électrique n'est pas du tout celui de la France, et on peut avoir des soucis.
Oui, donc ça peut prêter à confusion,
voilà,
c'est
parce
ça.
Parce que pour ce qui est du fil de terre, le fil de terre en France, il est jaune, il est vert ou il est vert jaune. Hein. Mais je pense que vous allez le confirmer, hein, Kevin. C'est pas toujours le cas dans les appareils qu'on reçoit de pays étrangers lointains.
Oui, alors justement. En France, nous, c'est toujours comme ça. Après, les normes peuvent changer en fonction des pays. Il est toujours bon de se rapporter à une notice constructeur ou à un schéma électrique qui peut être disponible sur Internet.
D'accord.
Alors, on a Phil, s'il vous plaît, au 3216. Oui, qui a une question, Kevin, pour vous. Bonjour, Phil.
Oui, bonjour, messieurs.
Bonjour,
bienvenue.
Phil.
Bienvenue. Vous nous appelez d'où?
De la Loire, près de Saint-Étienne.
D'accord. Et vous avez le frigo qui fatigue?
Eh bien, oui, écoutez, il se réenclenche plus, enfin il fonctionne, mais dès qu'il arrive à température, il s'arrête et il ne recontacte plus. Je suis obligé de tourner le bouton intérieur pour qu'il redémarre.
Ah oui, c'est embêtant parce que vous êtes obligé d'être toute la journée
devant le frigo. Devant le frigo,
voilà,
alors,
oui.
Ça, c'est
et embêtant. Alors la nuit,
enfin, cela dit, en ces périodes de compte. Cela dit, en ces périodes de confinement, ça va.
En ce moment, j'ai pas de problème.
On a et vous vous relayez avec madame, peut-être pour.
Oui.
Chérie, lève-toi, vérifie le frigo.
On met le réveil et puis on
problème. Philippe, on rigole, mais ouais, bon, c'est pas rigolo.
Kevin, qu'est-ce que vous nous dites là?
Alors, c'est un problème généralement de thermostat qui peut survenir dans ces moments-là. C'est encore une fois très facile de pouvoir débrancher l'appareil et d'aller sortir ce thermostat qui est seulement un petit bloc qui se situe sur le côté gauche généralement de la partie réfrigération.
Alors vous notez bien, hein, Phil.
Oui.
Donc oui. Alors il est sur le côté gauche, mais gauche en regardant l'appareil, par l'avant ou par l'arrière?
Par l'avant, quand on est face à l'appareil.
D'accord.
Mais parce que l'arrière, en général, on n'y a pas accès, Christian.
Ah bah oui,
il est enfoncé.
Il faut le sortir, le frigo, là.
Oui.
S'il est encastré. Et alors, votre petit bloc, il est où? Il est visible de l'extérieur?
Il est visible de l'extérieur. C'est généralement le petit bloc où il y a une petite molette qui permet de régler la température souhaitée dans la réfrigération.
Ah, donc, il est à l'intérieur de la cuve?
Il est à l'intérieur, oui.
Ah, d'accord. Oui, je pensais qu'il était derrière, moi. Non, alors donc, il est à l'intérieur. Oui, comment on le sort, ce petit bloc? Il est fixé par derrière?
Toujours la composition de l'appareil, parce que les marques peuvent être un petit peu différentes. Et du coup, le démontage peut être également différent. Mais ce bloc-là, on peut souvent l'extraire à l'aide d'un petit tournevis cruciforme et d'aller retirer et le thermostat, qui est suivi par toujours une sonde de température, un peu comme le four, et d'aller pouvoir le tester à l'aide d'un appareil de mesure pour savoir s'il fonctionne
bien. Ultimètre.
Donc on dispose toujours de tutos sur Internet où on vous montre comment faire les bonnes mesures et savoir quelles sont les mesures à faire et si les valeurs qu'on a à l'aide d'un multimètre ou d'un ohmmètre sont bonnes.
Très bien.
Ben merci Phil et bon courage. Hein. J'espère que vous êtes bien.
Merci beaucoup et encore un grand merci pour vos émissions.
Ben voilà. Super. Et on espère.
Passez une bonne journée.
On espère
merci
que vous n'allez pas rester pendant tout le confinement
merci
devant votre frigo.
Au revoir. Au revoir.
Merci beaucoup. Kevin, merci pour toutes ces explications. Rappelons l'orthographe de votre site. C'est Spareka. Hein. Ça s'écrit SPAREKA.
Et
.fr, voilà, si vous voulez retrouver tous les tutos pour réparer vos appareils électroménagers. Merci Kevin.
Merci à vous, très très bonne matinée.
Merci. Marie est avec nous au 32-16, on passe à autre chose. Marie, bonjour.
Bonjour
Marie.
Ah ben Marie, bonjour, Marie, vous, on vous connaît.
Voilà, je m'étais trompé dans mes fiches là.
La vieillesse est un naufrage, oui, même pour Christian PC.
Merci.
Marie, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, expliquez-nous pourquoi vous nous rappelez aujourd'hui.
Alors, je vous ai rappelé parce que nous avons projet de rénover la façade de notre maison. Et puis on s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de l'isoler par l'extérieur
Temps.
Ouais. Voilà. Donc il y a quelques semaines de cela, vous aviez donné un conseil de faire faire.fr. Donc ce que je me suis empressée de faire, j'ai été en contact avec une personne qui a fait un diagnostic complet de la maison.
Génial.
Cependant, on a pu faire qu'un seul devis parce que avec le confinement, les deux autres artisans n'ont pas pu venir.
Ouais.
Et on est un peu tombé de notre chaise quand on a vu le premier devis qui nous a été fait. Ouais. Alors certes, il a été un peu fait à la va-vite parce que voilà, il y avait très peu de choses sur le devis, il y avait même pas un courrier. Enfin bref.
Faut pas prendre celui-là. Hein, vous dégagez.
C'est sûr qu'on va même pas le négocier, on va même pas le rappeler. En revanche, quand on a eu ce diagnostic avec la personne de notre communauté de communes, elle me semblait dire que alors il y avait trois types de l'isolation par l'extérieur. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors il y avait l'isolation par le polystyrène qui est le premier niveau. Ouais, après il y a l'isolation, je ne sais plus, de l'intermédiaire. Et le troisième c'était à base de produits naturels.
Évidemment, ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire.
D'accord.
Les produits naturels, ça ne veut rien dire. À part le PSE, c'est-à-dire le polystyrène, qui effectivement est un produit pétrolier, mais tous les autres produits sont plus ou moins à un moment naturel.
D'accord.
Donc après, du biosourcé, c'est la meilleure expression encore.
En fait, notre interrogation, c'est de se dire notre façade représente à peu près 237 mètres carrés, sans les ouvertures non déduites. Hein, et on voulait simplement se dire quel est le budget moyen si on est sur la tranche polystyrène sur le premier niveau. Et puis la deuxième question, c'était de savoir est-ce que ce qui ne semblait pas être le cas de l'avis de cette experte, c'est que si on isole pour le froid, on n'isole pas pour autant pour le chaud l'été.
Bon, alors ça, c'est le problème du déphasage. Si vous voulez, c'est très important au niveau de la toiture, ça l'est beaucoup moins au niveau des murs. Donc on isole très mal, globalement, on isole très mal contre la chaleur. On va simplifier les choses. C'est beaucoup plus facile d'isoler contre le froid que contre la chaleur. Contre la chaleur, c'est surtout, il faut jouer ensuite sur le rafraîchissement, notamment le rafraîchissement naturel, par une bonne ventilation, avec l'utilisation notamment du rafraîchissement nocturne qui fait qu'on va rafraîchir son intérieur. Alors ensuite, vous me parliez de budget. Moi, je vais vous dire, suivant le type d'isolation, c'est entre 120 et 150 euros le mètre carré. Effectif, c'est-à-dire ouverture déduite. Donc vous pouvez faire votre calcul assez facilement. La proposition basique qui vous est faite avec du PSE et alors je sais pas si on vous propose derrière un enduit, un crépi ou un bardage.
Un enduit. Voilà. Qu'on veut pas
alors c'est le plus efficace. C'est le plus efficace. Ensuite, vous avez les isolants minéraux et puis les isolants dits biosourcés qui peuvent effectivement être utilisés et très bien fonctionner. Vous allez avoir une épaisseur d'environ 150 mm d'épaisseur. Hein. Faut quand même le savoir. Hein.
Marie, merci. Et pour terminer ce rendez-vous maison, Christian, votre coup de cœur rapidement.
Oui, alors le coup de cœur, eh bien, il y a la prolongation donc du dispositif coup de pouce pour les travaux de rénovation énergétique et le remplacement des chaudières énergivores. Et c'est prolongé jusqu'en décembre 2021. C'est un bon signe, c'est la preuve que le gouvernement n'est pas focalisé uniquement sur les conséquences immédiates et à court terme du COVID-19. L'arrêté a été publié le 1er avril et c'était pas une blague. Il maintient en gros les aides. On verra d'ailleurs dans une émission le détail de ces aides. Donc pour les planchers bas, pour l'isolation des couvertures, j'aurai l'occasion de préciser tout cela. Alors point important, il y a un renforcement du contrôle de qualité des travaux. Il y a une interdiction du démarchage téléphonique pour les entreprises accréditées. C'est très important. Vous en avez marre d'être assailli sans arrêt. Donc, vous saurez, lorsqu'on vous démarchez téléphoniquement, que ça n'est pas une entreprise RGE. Donc, vous n'auriez pas les subventions qui vont à la clé. L'instauration du délai de rétractation de 7 jours, c'est très important à compter de la signature du devis et c'est obligatoirement précédé d'une visite technique. Tout à l'heure, Marie nous disait, oui, on a eu un devis à la va-vite, etc. Non, ça n'existe pas. Il doit y avoir un technicien, donc pour l'instant, vous allez devoir attendre un petit peu et il y a évidemment l'obligation que l'entreprise soit reconnue RGE. À noter aussi que la nouvelle offre coup de pouce va pour les copropriétés, ce qui décide de quitter le chauffage au fioul. C'est aussi une disposition extrêmement importante.
Christian, merci beaucoup. On sera là, bien sûr, samedi prochain, 7h-8h, votre rendez-vous maison.
Oui, on sera là.
Rentrez bien. Et dans un instant, c'est un autre Christian qui sera là. C'est notre docteur. Bonjour, docteur Christian Ricard.
Bonjour, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est concret, c'est pratique.
Merci.
J'aurais dû être formé par ce monsieur, je serais moins gueux dans ma maison pour mon bricolage.
Je vous bricolerai le foin, le rein.
Je suis tellement nul.
Et le foin,
Ça, c'est sûr. Oui. Je découvre qu'on peut finalement tout réparer.
Mais bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous réparer, nous, physiquement, Christian?
Oui, ça, j'ai appris à faire. Oui, ça, j'ai appris à faire.
On va retrouver donc le docteur Christian Ricard dans quelques instants pour une heure de forme et de santé. On va évidemment revenir sur le Covid-19. Vous allez aussi nous parler de la règle des 4 S, le stress, le sommeil, le sucre et le sport, surtout en ce moment. Et puis bien sûr, vos questions. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite après la météo et les infos.